À 19h05, un excellent lundi soir, tout le monde. Demain, le Canadien qui rend visite au Wild du Minnesota. On aura une heure d'émission avant la rencontre. C'est le moment d'accueillir Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Il y a plusieurs sujets parce qu'il y a eu beaucoup d'événements sportifs qui ont retenu notre attention en fin de semaine. Si on y allait par en ordre ou en hiérarchie d'émotions qu'on a ressenties, je pense qu'on commencerait par la NFL avec la fin de match Patriots-Dolphins. Oui. Mais on va commencer par un sujet peut-être plus sérieux. Mais il y avait un grand événement dans la MLS en fin de semaine. C'était la finale de la MLS impliquant Portland et Atlanta United, qui, à sa deuxième année d'existence, remporte tout. Ça avait l'air gros. Là. Mettons que tu regardes ça de n'importe où dans le monde, oui. Ça n'a pas l'air d'une ligue de broche à foin,
non,
la
non.
MLS.
Non, non, tout à fait. Ça a été très gros à Atlanta, plus de 70 000 spectateurs. Et là-bas, ça a été un événement majeur. Mais tu sais, la MLS a encore beaucoup de travail à faire. Justement.
Mais ça intéressait qui ici?
Ben voilà, exactement. Il n'y a pas de retentissement dans les autres marchés. En tout cas, certainement pas à Montréal. T'sais, moi, je regardais autour de moi au cours de la dernière semaine en demandant, êtes-vous capable de nommer un joueur d'Atlanta United ou de Timbers de Portland, tout à fait, puis les gens, non. Non, non, la majorité des gens ne sont pas capables. Je pense que ça, Major League Soccer, il y a un gros travail à faire de façon à ce qu'il soit plus connu, parce que c'est pas normal que la finale de ta ligue ne suscite pas un intérêt important, je dirais pas un intérêt monstre, mais un intérêt important dans les autres marchés qui font partie de la ligue. Tu sais, t'as suivi ça pendant l'année, t'es supposé dire « Ah, coudonc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver. » Puis ça, on n'a pas senti ça.
Mais on a de l'intérêt pour les séries au baseball, puis on n'a pas de club.
Ben voilà, c'est ça. Puis regarde la NFL, quand le Super Bowl arrive, tout le monde a son opinion. Puis ouais, eux vont gagner, puis eux
alors,
gagneront
pas. Alors oui, il y a un problème.
Ben c'est ça. Donc, il y a un problème. Cela dit, je pense que c'est encore une ligue qui est en formation. C'est encore une ligue qui est en développement. Puis moi, j'espère que ça va bien tenir le coup à Montréal. Parce que, tu sais, on a beaucoup parlé la semaine dernière, Mario, du fait que Seattle a eu une équipe de la Ligue nationale de hockey, ce qui nous a renvoyé au visage de façon très claire que Québec attendait encore. Puis là, je me suis mis à penser à l'ensemble de ce dossier-là. On en a parlé, toi et moi, vendredi dernier avec Luc Lavoie aussi. Mais tu sais, tu regardes quand on a perdu les Nordiques et quand on a perdu les Expos, ça s'est fait dans les deux cas un peu dans l'indifférence. Moi, j'étais à Québec en 1995 quand les Nordiques sont partis. Ça n'a pas été la réaction à Winnipeg quand les Jets ont quitté, puis il y avait eu une manif monstre dans les rues de Winnipeg, puis les gens disaient « Non, sauvez les Jets, sauvez les Jets ». On n'a pas eu ça à Québec. Les gens en avaient par-dessus la tête d'entendre parler des chicanes entre les propriétaires des Nordiques, le maire de Québec, le gouvernement du Québec à l'heure actuelle. Puis, tu sais, les gens tout à coup ont dit « C'est assez, ça ne fonctionne pas », puis ils sont partis. Puis ce n'est que plus tard, des années plus tard, qu'on a commencé à réaliser que ce qu'on avait perdu comme société au plan sportif, c'était terrible. Puis là, on s'est dit en 2010, il faut les ravoir. Puis là, on voit aujourd'hui combien c'est difficile de les ravoir. Même chose pour les Expos. Souviens-toi, 2004, quand les Expos ont quitté, l'indifférence la plus totale. Les deux dernières années, ils jouaient des matchs locaux à Porto Rico, tu te souviens? Ouais. Puis quand ils sont partis, il y a eu un peu de monde à la dernière rencontre, là, quand ça a été contre les Marlins de la Floride, de mémoire, mais à part ça, tu sais, ça n'a pas été
Mais t'es-tu d'accord pour dire qu'un contexte, pas pour le justifier ou quoi que ce soit, là, c'était une lente agonie, puis il y a des écoutes.
Ouais, on en avait assez, là aussi. On était plus capables.
Il y a eu des grosses décisions, puis quand c'était prêt, on a saboté ça, puis là, on nous a découragés même de l'illusion de penser qu'on pouvait les garder. Ouais. Le baseball majeur qui entretenait ça ici, sans même nous laisser, tu sais, au lieu d'être intelligent puis de dire, hey, Montréal, tu sais, non, ils ont jamais eu cette attitude-là. Ils étaient probablement écœurés de la façon dont tout le litige entre Loria, les actionnaires, puis même avant brochu les actionnaires. Ouais. Ça faisait 10 ans, là, que ça.
Exactement. Puis ça, c'est là que c'est mauvais pour des organisations.
Ça a tué le produit,
voilà,
ça a tué
toute la magie autour d'une équipe, autour du sport, quand c'est rendu que tu parles plus de ça que du sport. En tant que tel, c'est un problème. Quand tu parles plus de qui va être propriétaire, puis comment ils vont faire leurs frais, puis y aura-t-il un nouveau stade, puis y aura-t-il un nouvel amphithéâtre.
Ils nous ont jamais dit, Philippe, l'équipe va rester ici encore 5 ans, même si vous en occupez pas. Tu sais, d'année en année, on se demandait, puis en tout cas, c'est décourageant de repenser à ça.
Ben, c'est décourageant. Puis là, tu regardes ça aujourd'hui, puis regarde les efforts qu'il faut consentir pour essayer de ravoir cette équipe-là. Alors d'abord, ça va coûter une fortune. T'aurais été mieux de perdre 40 millions US par année pendant 15 ans que de payer ce que ça va coûter pour éventuellement les ravoir si ça fonctionne. Mais c'est ça qui m'a frappé, tu sais, en pensant à ça. C'est comment, quand on les a perdus, ces deux équipes-là, comment ça n'a pas vraiment fait de vague? C'était comme acquis dans l'esprit des gens. On parlait depuis trop longtemps. Le dossier de la survie des Nordiques à Québec puis du nouvel amphithéâtre à Québec, on commence à parler de ça en 1990-91. Après 5 ans, les gens n'étaient plus capables d'en entendre parler. Les Expos, quand est-ce qu'on a commencé à parler d'un nouveau stade? À peu près 95, là, dans le stade Labatt au centre centre-ville, puis finalement, après 10 ans, les gens n'étaient plus capables non plus. Puis là, je regarde un peu Major League Soccer avec l'Impact, puis tu sais, je vois que Joey Saputo a été jugé quand même un peu durement quand il a fait son cri du cœur au mois d'octobre.
Là, sur Piatti?
Non, en octobre, quand il a rencontré plusieurs journalistes, puis il a dit, tu sais, il s'est plaint un peu de ne pas avoir assez de billets de saison, puis son compte de taxes et tout. Et puis tu regardes ça, tu dis, coudonc, peu importe comment cette histoire-là va finir, je pense que ça serait important de protéger l'équipe de soccer. Espérons que ça fonctionne, parce qu'on voit comment c'est dur de les ravoir.
J'ai une question pour toi, moi. Joey Saputo, là, prendrait-il une décision à la Claude Brochu avec l'Impact de Montréal, c'est-à-dire d'y aller d'une grande liquidation ou, tu sais, par rapport à ses joueurs de talent, Piatti, parce que dans le fond, ce qui a tué les Expos, à part le conflit de travail, c'est que le gars qui gérait la patente avait pas eu moyen de faire des cash calls, parce que lui, ça diluait ses parts, puis il avait pas eu moyen de suivre la parade. Fait que c'est assuré, puis il était très rassurant pour les actionnaires de pas mettre une scène de plus là-dedans, parce que lui, ça le gardait dans le coup, il gardait son pourcentage intact dans la vente, et donc ça l'amenait à prendre des décisions de tant qu'à moi qui ont tué bien avant que ça meure pour vrai les Expos de Montréal. Est-ce que Joey Saputo n'aura pas des décisions semblables à prendre? Quand tu regardes Atlanta qui s'achète un championnat en 2 ans, quand tu regardes Cincinnati qui arrive dans la Ligue, des autres équipes d'expansion,
Toronto, avec
un budget, déjà qui se questionne, ça le torture de voir des équipes dépenser ainsi. J'ai hâte de voir, moi, il y en a des grosses décisions à prendre. Amène un Ibrahimovic ici en ville, là. Amène un Balotelli ou je sais pas, on jase, on met des noms, là. Entre l'avoir puis pas l'avoir, ça change tout le portrait, peut-être.
Ben, ça change, je regarde Drogba. Quand il est arrivé, ça a complètement changé l'impact, puis ça a été la meilleure chose qui est arrivée à cette organisation-là, à Major League Soccer. Mais je ne vois pas ça, non, une liquidation, pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a un plafond salarial en Major League Soccer, donc le cœur de ton équipe, le plus gros bassin de joueurs, il y a une limite à ce que tu peux les payer, puis c'est une limite qui est quand même acceptable en tant que masse salariale. Donc, ce qui reste, ce que tu dépenses, c'est pour ce qu'on appelle les joueurs désignés en Major League Soccer, et je pense que Joey Saputo connaît assez le marché de Montréal pour savoir que ça lui prend au moins une vedette dans son équipe, parce que déjà, il y a de la misère à vendre des billets de saison au niveau où il souhaiterait le faire. Il souhaiterait en avoir 13 500. Ils en ont moins de 10 000 depuis l'entrée en MLS.
Avec un super joueur, mais qu'on ne voit nulle part ailleurs que sur le terrain.
Ben, c'est ça. Ça, c'est un problème aussi. C'est un problème. C'est que le joueur vedette, Drogba, a réussi à faire parler de l'Impact sur toutes les tribunes. C'était une personnalité de l'Impact, mais il est devenu une personnalité montréalaise parce qu'il était connu partout dans le monde puis qu'il y a eu tellement une grande influence sur cette organisation-là. Piatti, puisque c'est lui le meilleur joueur, n'a pas du tout le même profil. C'est pas un gars de la même
stature.
Voilà, c'est ça.
Non, vraiment pas. Mais, tu sais, je parle pas de liquidation, juste pour finir sur les décisions de Joey Saputo, parce qu'il se questionne, j'imagine, sur le budget qu'il va investir dans sa masse salariale d'année en année.
C'est sûr.
Et il y a un pas qu'on n'ose pas faire. Et la question que je pensais que tu faisais allusion à ça quand il avait déclaré à Jérémy Filosan en arrivant dans le studio au stade Saputo, est-ce que je veux 3 joueurs à 2 millions ou un joueur, en tout cas, quelque chose dans ou un joueur à 5-6?
Ouais. Ben, la bonne nouvelle, c'est que tu es toujours prêt à dépenser 6 millions.
Ben, c'est déjà bon.
C'est déjà ça.
Mais en comparaison de Toronto et Atlanta, là, si tu veux
suivre. Déjà dit qu'il ne dépenserait pas comme Toronto. Moi, à l'époque, il m'a dit ça il y a 2 ou 3 ans. Tu sais, Toronto, qui a 3 joueurs là, qui font énormément d'argent, 4, 5, 6 millions. Bradley, Altidore et puis Giovinco. Alors, ces 3 joueurs-là font beaucoup, beaucoup de sous. Je ne pense pas qu'il y aura jamais une masse salariale comme celle-là.
J'ai une autre question. Écoute, j'en ai des questions sur l'impact. Est-ce qu'on a construit un stade adéquat pour la MLS ou ce que devient la MLS? Le stade Saputo, là, est-ce que le stade est-il... Il n'est pas trop petit parce qu'il n'est pas plein, mais je veux dire, à partir du moment que tu as un stade de 40 000 à remplir, tu ne vas pas prendre les mêmes décisions sur ta masse salariale et les joueurs que tu vas attirer.
Quand tu regardes,
est-ce qu'on a visé assez haut ou gros? Je ne veux pas chercher des poules, mais...
Non, moi, je te dirais qu'en termes de nombre de sièges, c'est parfait. 20 000. D'ailleurs, les nouveaux stades qui ouvrent, qui sont purement Major League Soccer, là, purement soccer, c'est à peu près ça. Il y en a qui vont jusqu'à 25, 26, mais on ne construit pas des stades de... Tu sais, tu as Atlanta, qui est une exception, qui est un stade qui a été bâti pour les Falcons de la NFL. Tu as Seattle, qui est une exception, mais c'est dans le stade des Seahawks de la NFL.
Au pire, t'augmentes tes prix.
Ben, c'est ça. Mais ce qui manque au stade Saputo, ce qui manque clairement, c'est ce qu'on appelle les produits de luxe. Des loges qui sont le Nec plus Ultra, des sièges de luxe. Vraiment, c'est avec ça aujourd'hui que les équipes s'enrichissent. C'est en offrant des produits très ciblés pour la communauté des affaires, pour les gens qui sont prêts à dépenser davantage d'argent. Et ça, au stade Saputo, l'accent n'est pas mis là-dessus. D'ailleurs, Joey Saputo a dit qu'il y avait un plan dans ses cartons justement pour essayer d'agrandir le stade et de faire ce type de produit-là. Maintenant, on verra bien si tout ça se concrétisera un jour. Je pense pas que ça va être à court terme.
Autre sujet maintenant, le Canadien, on en parlait avec Mario Tremblay tout à l'heure, sur une séquence de 3 victoires, et c'est intéressant que ça arrive peu après la séquence de 5 défaites.
Ouais.
Et le Canadien, parce que là, tu vois des équipes qui commencent à s'échapper, le Canadien qui réussit à s'accrocher au peloton qui est en haut de la barre des séries, comment tu analyses la situation actuelle au tiers ou à peu près de la saison?
Ben, c'est mieux que... c'est au-delà des espérances, soyons réalistes. Moi, je pensais pas que le Canadien... j'ai toujours pensé que le Canadien ferait une lutte correcte, mais là, vraiment, il nous impressionne souvent. Puis moi, ce que je trouve pas mal surprenant cette année, c'est que quand l'équipe semble avoir un genou au plancher, elle est capable de se relever. Tu faisais allusion aux défaites récemment. Bang! Ils sont capables de revenir avec plusieurs victoires. J'ai l'impression que le retour de Weber... Oui, parce que Weber aide cette défensive-là qui a des trous énormes, mais c'est surtout l'aspect psychologique du retour de Weber pour un seul joueur chez le Canadien. Pour Carey Price. Moi, j'ai l'impression que ça vient de changer complètement la manière dont Carey Price approche son match, la manière dont il se rend à l'amphithéâtre, la manière dont il envisage les prochaines rencontres. Pour lui, c'est un immense réconfort d'avoir Shea Weber, et c'est pas un hasard si, depuis le retour de Weber, Price joue son meilleur hockey. Oui, il a l'aspect hockey, bien sûr. Weber est meilleur que les autres, donc Price va mieux jouer.
Je trouve ça intéressant.
Mais ça va au-delà de ça. C'est dans la tête, c'est dans la préparation, c'est dans la façon dont il voit son match. Je suis convaincu qu'avant même que la rondelle soit mise au jeu à chaque rencontre, il doit être de 10 à 15% plus confiant. Ça fait toute la différence.
C'est intéressant que tu amènes ça sur l'aspect humain au-delà de la performance. Puis moi, je pense que ça compte, ça, dans un sport collectif. Et veux pas, quand même si Weber était proche de l'équipe, tu sais qu'un de ses, ce qu'on appelle là, un de ses buddies, là, dans le langage des équipes, avec lequel il est toujours, c'est chez Weber.
Oui, tout à fait.
Si Weber est blessé, mais il va faire un tour, c'est pas la même affaire. Il est avec Weber, il est avec Gallagher, les gars de l'Ouest, les Finlandais sont ensemble, il y en a qui mixent un petit peu plus, mais Gallagher, Weber, puis Price, là, surtout Weber et Price, c'est...
Ben exactement. Alors là, qu'ils soient là, collé, qu'ils jouent, c'est sûr,
oui,
puis ils ont vécu des expériences ensemble aux Jeux olympiques, ils ont été partenaires aussi à la Coupe du monde là, oui. Il y a 2 ans. Donc, c'est sûr que pour Price, qu'on a senti l'an dernier souvent tiraillé et tout, je pense que le fait que Weber soit là, soit dans l'alignement, c'est toute la différence au monde. Puis pour le Canadien, ce qui est important, oui, c'est important que Weber joue bien, c'est sûr, mais c'est surtout important que Price joue bien, parce que Price demeure le leader de cette équipe-là sur la patinoire. Pour que le Canadien gagne, il faut qu'il soit là match après match. Et tout ce qui peut aider Price, c'est un plus. C'est
et
un
moi,
énorme
ce que j'aime
positif.
Beaucoup, je te le partageais avant d'entrer en onde, c'est que le Canadien se soit retrouvé en haut de la barre des séries sans la part de Price.
Ouais.
Ça, je trouve ça vraiment, c'est pas de quoi qu'on aurait imaginé depuis plusieurs années. Là. C'est la première fois que ça se produit depuis longtemps. Avant, on n'était même pas capable de dire... parler du succès du Canadien sans parler de Price. Et là, c'est arrivé.
Ouais.
Et là, il recommence à jouer. Alors, j'aime ce que je vois. On va voir s'ils sont capables d'enchaîner là-dessus. Pour compléter, j'ai commencé avec ça tout à l'heure. C'était toute une fin. C'était fou comme fin de match à Miami. Ça avait l'air d'un match éliminatoire. C'en était un, en quelque sorte.
Ouais,
si on se perd du point de vue des Dolphins. Mais, tu sais, le genre de jeu qui fonctionne jamais, là, les passes latérales dans un jeu de désespoir en fin de match, ça a fonctionné hier pour les Dolphins. Ça fait que tu sens ton goût.
69 verges. C'était absolument incroyable. Écoute, je regardais le match et là, juste avant ce jeu-là, il restait 7 secondes, là, puis le ballon allait être mis au jeu. C'était clair que c'était le dernier jeu, ou peut-être qu'il pouvait en essayer 2, mais c'était limite. Et là, il nous montre, la caméra nous montre Tom Brady, c'est les Dolphins qui ont le ballon, la caméra nous montre Tom Brady sur les lignes de côté.
Ah oui,
puis pour Brady,
oui.
Le match est terminé, là, il a gagné,
il a
les bras croisés, il a un grand sourire, son casque est retiré, il jase avec ses partenaires de jeu. Ah, la vie est belle, une autre victoire pour les Patriots.
Ouais,
et là, arrive ce jeu-là absolument incroyable. Même le commentateur à la télé américaine.
Il annonce la fin du match pendant le jeu.
Le dernier jeu du... c'est sûr, c'est le dernier jeu.
This will end the game.
C'est ça, mais avec le résultat.
Or will it? Là,
ouais,
est-ce que ça va vraiment mettre fin au match? Puis là, une couple de secondes de plus. Puis là...
bang, puis 2 latérales. Puis on sait que quand tu essayes beaucoup de latérales là, dans un match, souvent c'est rappelé parce qu'il y a une latérale qui est allée par en avant. Puis ça, c'est pas permis. Mais là, les 2 latérales, elles étaient parfaites. Les gens, si vous n'avez pas vu ce jeu-là de fin de match entre les Dolphins et les Patriots hier à Miami, premier. Allez voir ça. C'est sûrement disponible quelque part. C'est extraordinaire. Puis c'est le genre de jeu que tu vois pas dans la NFL. Tu vois ça au niveau des collèges, des universités américaines. C'est 2-3 fois par année. Il y a même eu une année, je me souviens, les majorettes étaient déjà rentrées sur le terrain. Puis un joueur qui courait à travers. Ça aussi, c'est un moment célèbre. Ça s'est vraiment produit.
Oui.
Là, on n'en était pas là, mais il en reste pas moins que ça a été quelque chose d'assez spécial. Puis ça a été tout un show. Puis qu'est-ce que ça va faire, ça, pour les Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Quand tu perds un match de même que tu croyais gagner à la toute fin, c'est dur pour le moral.
Les Patriots, là, sont moins intimidants qu'ils l'étaient les dernières années, mais attends un peu. C'est pas fini. C'est pas fini. Faut pas les écarter trop vite. Philippe, merci beaucoup.
Salut, Mario.
Une bonne soirée. On se repart cette semaine, évidemment. Et dans un instant, place à Danny Dubé, qui, lui, est déjà au Minnesota.